Je pense que ça marche. Bonjour à chacun. J'ai un défi ce matin parce que je suis devant vous pour 30 minutes et je suis censé à vous communiquer quelque chose d'utile. C'est ça, hein? Alors que je regarde la plupart des visages, je suis pas sûr de pouvoir savoir votre nom. Mais moi, c'est Christophe. Je suis vraiment content d'être là. Ça fait mon deuxième culte en 24 heures parce que hier soir nous avons célébré notre culte à la Pompignane pour la raison simple que ce matin notre salle que nous partageons avec les Adventistes n'était pas disponible à cause d'un grand mariage. Il y a quelques semaines, j'ai apporté le message à l'église et c'était le premier dimanche où, à notre grand plaisir, les amis adventistes avaient installé non seulement une isolation au toit, mais un système de climatisation. Et je disais à ceux qui m'écoutaient ce jour-là, c'est que s'ils s'endormaient, ce n'était pas parce qu'il faisait trop chaud. C'était peut-être parce que le prédicateur n'était pas intéressant. Il fait un peu chaud. Pas trop. Et la première chose que je voulais vous dire, à part cette introduction, c'est que je suis venu avec quelques livres à vous proposer. Mais pas pour acheter. Moi, je suis associé à la mission Opération Mobilisation. Certains d'entre vous, vous connaissez OM, vous avez entendu parler, peut-être lu ou entendu les messages de Georges Verwer. Et à la sortie de la salle, il y a quelques livres par Georges. Et je vous les recommande. En prenant un livre, vous vous engagez à le lire. On est d'accord ? Et je ne vous exige pas, mais si ça fait du bien et vous lisez, donnez-le à quelqu'un d'autre. Donc, un des livres que Georges a écrit, ça s'appelle « Naviguer par la grâce ». Je pense que vous trouverez ça assez intéressant. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu chez vous. Et la dernière fois, et l'avant-dernière fois, et l'avant-dernière fois, je vous ai parlé de l'évangile de Matthieu. Alors quand je dis évangile de Matthieu, je ne sais pas ce qui vient à votre esprit. Mais je vous livre quelques observations qui peut nous aider à comprendre ce qui n'était peut-être pas évident à la première lecture. Par exemple, lorsque vous ouvrez l'évangile de Matthieu, vous pouvez constater que la manière que Matthieu a décidé de répartir ce qu'il allait raconter au sujet de Jésus est extrêmement organisé. Je vous donne un exemple. Du chapitre 1 au chapitre 28, vous allez rencontrer un évangile qui est divisé par 2 types de textes: narratif et discours. Quand je parle de narratif, je parle de quelque chose, des événements, des choses qui se passent. Et donc, vous avez, par exemple, dans les premiers 4 chapitres de l'évangile de Matthieu, 4 chapitres narratifs. Les textes, l'histoire, les choses qui se passent. Et l'identité de Jésus est le thème de ce narratif. Vous arrivez à chapitre 5, 6 et 7, et vous avez un discours que nous appelons le sermon sur la montagne. C'est du discours, c'est de la prédication, c'est un enseignement que nous avons qui sort directement de la bouche de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on se rend compte du privilège que nous avons de lire les évangiles. Nous avons les paroles mêmes du Fils de Dieu. Et donc, si vous continuez dans chapitre 8 et 9, vous revenez dans le narratif. Donc, vous avez narratif, discours, tout au long de l'évangile. Et vous avez 5 textes de discours dans l'évangile de Matthieu. C'est tout un cours. Nous n'avons pas 25 heures pour parler de l'évangile de Matthieu. Mais ce que j'aimerais apporter ce matin, c'est m'arrêter sur un des discours de Jésus qui se trouve dans le chapitre 13. Le chapitre 13 est tout simplement composé d'une série de paraboles. Vous voyez ? Et ces paraboles, dans Matthieu 13, suivent, évidemment, Matthieu 11 et 12, c'est secret pour personne, mais lorsque vous regardez de près l'accent sur Matthieu 11 et 12, vous avez, même dans certaines de vos Bibles, le thème écrit de cette première tournée des apôtres en Galilée. Et ce thème qui préside, qui ressort du chapitre 11 et 12, c'est l'opposition au ministère de Christ. L'opposition. Moi, j'aurais préféré qu'ils disent le grand succès des apôtres dans leur première rencontre, campagne et tournée en Galilée. Mais Matthieu a décidé de relater surtout des expressions d'opposition au ministère de Jésus. Et il y en a 4 dans ces 2 chapitres. On ne va pas en parler ce matin. Mais juste pour vous donner un exemple, pour comprendre mieux le chapitre 13, au chapitre 11, vous avez une forme de résistance au Christ. Et Jésus, il raconte une histoire. Il dit, vous êtes comme des enfants au bord de la place publique et vous exigez qu'on vous chante des chansons. Et puis Jésus dit, on vous a envoyé Jean-Baptiste. Et vous l'avez critiqué. Vous avez dit qu'il était ascète, qu'il était strict, que son message était trop strict. Et puis, vous avez dit, non, c'est pas bien ce qu'il fait. Et puis est venu le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, et Jésus se décrit comme étant quelqu'un qui mange avec tout le monde, qui est ouvert à tout le monde, qui ne fait pas peur comme Jean-Baptiste, et vous l'avez aussi critiqué. Donc, le message de cette forme de résistance au ministère de Jésus, c'est quoi que Dieu vous donne, vous restez dans l'incrédulité. Et la première forme de la résistance au ministère de Jésus dans le chapitre 11, elle n'est pas simplement de l'époque de Jésus, elle est aussi actuelle. C'est que Jésus est en train de dire qu'auprès des peuples qui ont reçu les apôtres et qui ont refusé d'écouter leurs paroles, il y a une forme de incrédulité surdéveloppée. C'est intéressant. Moi, je vais vous dire tout de suite que là, nous avons une application pour notre pays de France aujourd'hui. Nous avons en France une capacité d'incrédulité surdéveloppée. Mais ce n'est pas mon sujet. Et donc, vous avez ces formes de résistance à Jésus. Et puis, Jésus raconte les paraboles du chapitre 13. Et c'est un peu troublant, parce que Jésus, parfois, raconte des paraboles pour deux raisons contradictoires. n'est pas notre sujet, mais c'est intéressant de regarder ça un jour un peu plus loin. Il raconte des paraboles d'abord pour endurcir le cœur, mais deuxième lieu, pour éclairer ceux qui veulent aller plus loin. Et en fait, la compréhension de la foi, Jésus était en train de dire, est souvent pas simplement et surtout pas au niveau de l'intellect, mais souvent la résistance à la parole du Christ se trouve surtout au niveau de la volonté. La volonté, quoi qu'il en soit, de ne pas croire en Jésus. Et nous avons cette ambiance alors que nous allons parcourir une partie du chapitre 13. Maintenant, avant notre lecture, j'aimerais juste faire quelques observations préliminaires. Chapitre 13. Vous savez que c'est une compilation de paraboles. Donc, Matthieu a dû choisir. Il y en a plein qui ne l'a pas dit. Mais d'abord, quand on lit le chapitre, on observe des paraboles longues avec explication. Qu'est-ce que je suis content que Jésus a interprété ces paraboles. On n'a pas besoin de savoir qui est qui. On sait, c'est Jésus qui le dit. Il y a d'autres paraboles dans le Nouveau Testament. On peut se demander exactement qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, qui est le deuxième fils dans la parabole du fils prodigue? On peut en discuter et avoir peut-être des avis contradictoires. Mais on observe des paraboles longues, donc la parabole du semeur, avec la parabole de l'ivraie, avec des explications de Jésus. Et puis, est suivi, donc, on trouve aussi des paraboles courtes, comme le grain de moutarde, mais sans explication. Quelle est la procédure pour comprendre une parabole qui n'est pas expliquée? Est-ce que c'est en se basant sur la parabole qui vient de le précéder? Vous savez, en vous disant tout ça, je voudrais encourager votre curiosité d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. Nous connaissons bien la parabole du semeur. Nous n'allons pas le lire ce matin. Il y a quatre graines ou terre, et donc le premier, les oiseaux enlèvent, le deuxième, le soleil brûle, la troisième, c'est des ronces, c'est des épines qui étouffent, et puis la quatrième, c'est de la bonne terre, un bon grain qui sort et se reproduit en 30, en 60 et même une centaine. Ça, c'est la parabole du semeur. Et moi, je vais vous proposer une lecture du plutôt milieu du chapitre 13, et on va l'afficher à l'écran et nous allons le lire ensemble. Commençons avec la parabole de l'ivraie. Je lis dans la version semeur de la Bible. Verset 24, chapitre 13. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé au même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste. Si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi se réalisait la parole du prophète « Je leur parlerai à l'aide des paraboles. Je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. » Alors Jésus laissa la foule et rentra dans la maison et ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Maintenant, ce que je veux vous laisser ce matin n'est pas un enseignement spécifique sur la parabole de l'ivraie. Mais j'aimerais tout simplement laisser avec chacun quelques thèmes de ce chapitre que je trouve, pour moi, troublant dans le sens où j'y pense pas tous les jours. Ce ne sont pas des thèmes que vous allez lire dans le Midi Libre. Ce n'est pas des thèmes que vous allez entendre à je ne sais pas quelle radio. Mais pour vous convaincre un petit peu de saisir les thèmes, je voudrais vous montrer une diapositive que je pense représente où se trouvent les thèmes dans le chapitre 13 de Matthieu. Et donc, si vous voyez, la première ligne représente une parabole. Et vous avez un thème là-dedans, numéro 1. Et puis, si vous allez dans une autre parabole, par exemple la deuxième parabole, vous avez le même thème dans les deux paraboles. Et donc, c'est tout ce que je voulais vous dire avec cette illustration. C'est que pour recenser les thèmes importants du chapitre, je ne suis pas en train de dire que voilà, il y a un thème dans la parabole du semeur, il y a un thème dans la parabole de l'ivraie, et puis... Non, souvent, pour comprendre les thèmes principaux de ce chapitre, vous constaterez avec moi qu'on trouve le même thème dans deux paraboles différentes. Et je vais vous en laisser quatre. Quatre thèmes que je trouve ressortent de ce chapitre de discours, d'histoire, qui ont des portées spirituelles dans un sens grave. Là, je pense que je vous ai déçu ce matin. Là, c'est le 30 juillet, il fait beau dehors, vous êtes venus au culte pour avoir un petit culte de milieu d'été. Et là, je vais vous abattre avec des choses très graves. Êtes-vous prêts? Aïe, c'est bien. Le premier thème, ce n'est pas un secret, vous l'avez observé vous-même, mais peut-être pas aussi clair que je vais vous le dire. Le premier thème de ce chapitre, c'est qu'il existe un esprit maléfique, une personnalité invisible, accompagné d'autres esprits maléfiques contre le progrès de l'Évangile. J'ai presque l'air simpliste de vous dire que je suis en train de parler du diable. Les deux premières paraboles que Jésus explique, le diable existe dans les deux paraboles. Au verset 19, nous avons l'explication de Jésus qui dit « Le malin vient et enlève ce qui était semé. » Est-ce qu'on comprend tout ça ? Peut-être certainement parfaitement. Pas parfaitement. Mais il y a un constat que le diable agit contre la compréhension de l'Évangile auprès des gens. Et au verset 39, nous l'avons lu, l'ennemi qui sème la mauvaise graine, c'est le diable. Et c'est Jésus qui le dit. On n'a même pas besoin d'imaginer si c'est vrai ou pas. Lorsque vous lisez l'évangile de Matthieu, par exemple, si on revient au début du chapitre 1, 2, 3, 4, où le thème c'est l'identité de Jésus, il y a un texte qui parle du diable. C'est la tentation de Jésus, au chapitre 4. Et nous ne comprenons pas comment le prince des démons, Lucifer lui-même, Jésus appelle le diable de trois titres différents dans chapitre 4. C'est qu'il communique, il communique avec le Fils de Dieu. Il n'y a pas de mention démoniaque ou diabolique dans le serment sur la montagne. Quoique, on peut imaginer qu'il y a des allusions. Mais dans le chapitre 8 et 9, dans le chapitre 8, quand Jésus arrive sur une terre qui n'est pas dominée par les Juifs, il rencontre un homme qui est démonisé. Et dans les chapitres 11 et 12 qui précèdent la parabole du chapitre 13, qu'est-ce qu'on trouve ? La moitié, deuxième moitié du chapitre 12, c'est tout au sujet de l'action du diable dans l'exorcisme, dans le pardon du péché. Par qui est-ce que tes fils, dit Jésus aux Juifs, ils exorcissent les démons. Et donc, nous devons constater, même si nous avons, nous, aujourd'hui, une culture qu'on appelle cartésienne, matérialiste, où nous, les Occidentaux, on a été à l'école de la République, pas moi, mais peut-être la plupart d'entre vous, où en fait, on arrive à imaginer que tout ce qui existe, c'est tout ce qu'on voit. Je vois qu'il y a des frères et sœurs africains avec nous ce matin, peut-être antillais, peut-être de la Réunion. Vous savez que dans d'autres parties du monde, les églises prennent ça beaucoup plus au sérieux. Et pourtant, je peux vous dire qu'en France aujourd'hui, dans des villes souvent éloignées des grandes métropoles, la présence démoniaque est évidente dans les essais et les tentatives d'implantation d'églises. Je pense à Barry. Barry était un de nos équipiers irlandais, venu avec OM en France pour pratiquer son français, apprendre la Bible et apprendre à évangéliser et aider le démarrage d'une église à Laval. Est-ce que quelqu'un a déjà été à Laval ? C'est en Mayenne, au nord du Mans. C'est le vrai nord, hein, pour la plupart d'entre nous, la main. Laval, c'est une petite ville. Et un jour, comme les équipiers faisaient leur évangélisation, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans les appartements et ils offraient la Bible pour la lecture. Et Barry monte quelques étages et en haut rencontre une dame avec le journal sur son bras. Et Barry, avec son français relativement compréhensif, dit qu'il était là avec l'église évangélique et qu'il voulait offrir la Bible qui parle de l'amour de Dieu. Et la dame tombe par terre, inconsciente. Je ne suis pas sûr que Barry était pensé que sa formation comportait ce genre de scène. Et ce qui suit est incroyable. C'est que dans son inconscience, la dame a bougé son bras et a ouvert le journal sur lequel était tombé de son bras. Elle a ouvert le journal et elle a placé sa main sur le comment, qu'est-ce qu'on appelle ce qu'on raconte tous les jours là? Pardon? L'horoscope. Merci. Boum, comme ça. Il ne savait pas quoi faire. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je serais allé chercher quelqu'un. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Donc, Barry va chercher de l'aide. Il revient. Il trouve la dame debout, dans son bon sens, le journal sur son bras. Et il lui demande, mais madame, est-ce que ça va? Elle dit, ça va très bien. Et il est rentré à la maison, ayant expérimenté ce genre de rencontre. Il m'est arrivé depuis 40 ans à voyager à droite et à gauche en France et je trouve certaines personnes dans un extrême où ils disent que le diable, en France, c'est pas très important, etc. Et puis, dans d'autres milieux, chez d'autres personnes, le diable, quand ils éternuent, c'est le diable, quoi. Il est abondant, le diable, pour certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi d'être pas cynique, mais c'est pour renforcer mon point. Et alors, mon plaidoirie devant vous aujourd'hui, c'est quel est l'équilibre? Quel est l'équilibre biblique devant les paroles du Fils de Dieu dans ce domaine qui est de toute façon un thème de Matthieu 13? Alors, si je vous parle de l'équilibre, vous pensez que je l'ai, moi? Qui est-ce qui a l'équilibre dans ce domaine-là? Mais mes amis, je vous fais appel à l'évidence de ce chapitre où malgré nous, on doit constater que la présence démoniaque est un facteur avec lequel nous devons vivre notre vie chrétienne. Deuxième thème que je trouve assez grave dans ce chapitre 13 de Matthieu. Deuxième thème, il y aura des sauvés, on parle de fin des temps maintenant, il y aura des sauvés, il y aura des perdus, livrés, et pour sûr, il y aura un jugement dernier. Donc j'ai lié les deux ensemble. Alors les jugements derniers, ça se trouve dans la parabole de l'ivraie et dans la parabole qui se trouve à la fin du chapitre avec le filet de poisson. Vous vous souvenez, Jésus raconte le même thème, c'est qu'il y a des poissons, le pêcheur il tire son filet et il sépare les bons poissons des mauvais poissons. Ce thème est absent de la parabole du semeur. Pas de jugement, vraiment, dans la parabole du semeur. Mais dans la parabole de l'ivraie, on a la bonne semence qui sont le fils du royaume et on a l'ivraie, ce sont les fils du malin. Et Jésus dit, dans verset 49, « Il en sera de même à la fin du monde. » Il le répète comme il l'a dit dans ce que nous avons lu. « Les anges s'en iront, séparer les méchants du milieu des justes. » Je ne peux que plaider une logique biblique ici. C'est que si le péché est vraiment péché devant Dieu, Il va de soi qu'il faut qu'il y ait un jugement du péché. Si Jésus est mort d'une manière injuste en tant qu'innocent, c'est parce que Dieu juge le péché. Vous savez, dans le livre des Actes, lorsque Paul, dans le chapitre, je pense que c'est chapitre 21, lorsqu'il est à Athènes, il est en dehors de toute référence juive et rencontre les Athéniens. Ils comprennent pas, ils connaissent pas la Bible, ils connaissent pas l'Ancien Testament. Et Paul veut communiquer l'Évangile avec eux. Et donc, nous avons à l'aréopage l'apôtre Paul qui fait un discours pour rencontrer des vrais païens, des gens qui ils ont toutes sortes de dieux. Et évidemment, sa porte d'entrée, c'est qu'il a remarqué un autel qui était dédié au dieu inconnu. Et il dit, « Ah ben celui-là, je vais vous en parler. » Et vous remarquerez que la fin de son discours, vous remarquerez qu'il ne parle pas du nom de Jésus. C'était juste la pré-évangélisation. Mais il dit que Dieu a établi un homme qu'il a ressuscité d'entre les morts pour juger tout le monde. Alors là, waouh, il a eu une réaction négative parce qu'il a parlé du jugement dernier. Il y a une logique biblique à la réalité du jugement dernier. Ça date maintenant, mais vous souvenez du film qui était basé sur le roman de Marcel Pagnol, Marius et Jeannette. Vous souvenez ? Peut-être vous allez dire, vous aurez dû lire le livre, Christophe. Mais je n'ai pas vu le livre, j'ai vu le film. Et c'est très touchant, la rencontre de Marius et Jeannette. Et dans la cour de leur maison, il y a un grand-mère et un monsieur. Et le pépé, il y a un garçon de Jeannette qui donc habite avec elle. Et le garçon posait une question religieuse à ce pépé qui était dans la même cour que lui, de la religion. Et donc ça se passe à Marseille, vous savez. Et donc le garçon, il a à peu près 13 ans, 12 ans, il dit, le pépé explique la religion et il fait un genre de parabole. Il explique à Marseille, il y a différents quartiers. Il y a des quartiers des Français, il y a des quartiers des Arméniens, il y a des quartiers des Libanais, il y a des quartiers des Arabes, il y a des quartiers de... Et puis le garçon lui pose la question suivante. Il dit, pépé, toi, tu habites dans quel quartier, vous ? Mais oui, il ne voulait pas. Mais si, ça concerne tout le monde. On peut dire, non, moi, ça ne me regarde pas. Mais si, un jour, il y aura des sauvés et des perdus. La parabole de l'ivraie nous encourage à peut-être pas déterminer aujourd'hui qui est sauvé et qui est perdu. Hein. C'est ça le thème. Mais un jour, il n'y aura plus de brouillard. Ça sera clair. Et que le Fils de l'homme enverra ses anges pour séparer les gens qui sont sauvés des gens qui ne le sont pas. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Vous vous souvenez de ce chant ? J'ose vous le lire un peu ce matin ? Michel Polnareff, c'est quand même très parlant, hein, face à nos textes bibliques de ce matin. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Tous les bonnes sœurs et tous les voleurs, tous les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'il en soit béni, qu'on soit maudit, on ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains. On ira tous au paradis. Ne crois pas les gens qui disent « c'est ton cœur qui est la seule église ». Laisse un peu de vague à ton âme. N'aie pas peur de couler les flammes de l'enfer. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas,
on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal.
On ira tous au paradis. C'est parlant, hein ? Devant ce texte qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus, voilà une pensée en poésie que est trop facile de chanter parce que la mélodie est si agréable, n'est-ce pas ? Deuxième thème, il y aura des sauvés et il y aura des perdus. Je pense que mon temps est presque terminé. J'en ai 5 minutes ? Bon, on arrête et on revient cet après-midi. Non. Vous voulez aller à la plage, c'est ça ? Trouver un parking à la plage aujourd'hui, ce serait un défi. Hein. Le troisième thème, dans un sens qui me trouble pour ma propre vie, le troisième thème que je pense qui est à constater encore, c'est le caractéristique essentiel de la bonne terre. C'est que la bonne terre se reproduit. Jésus a dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Vous pouvez demander et je vous le donnerai. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et vous porterez beaucoup de fruits. Vous savez ce qui est triste dans la parabole du semeur ? La troisième terre, n'est-ce pas ? La terre qui semble avoir de la vie, mais qui est étouffée par les ronces, les épines et je ne sais pas quoi. Et évidemment, Jésus est en train de dire que c'est peut-être quelqu'un qui a de la vie en lui, mais qui ne se reproduit jamais. Et là, ça me parle, mais ça me parle, mais pas en bien, quand je regarde ma propre vie. Vous savez que nos églises évangéliques font beaucoup de choses pour leurs membres. Et je pense pas assez pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est comme l'idée d'avoir 12 vaches. Moi, je ne suis pas paysan, hein. Ça se voit d'ailleurs. Je suis né dans la grande banlieue de New York. Donc, la ferme, je ne connais pas beaucoup. Mais qu'est-ce que j'adore les vaches en France ? Mais c'est comme si on avait 12 vaches et on discutait tout le temps. Est-ce qu'on va mettre 6 d'un côté et 6 de l'autre ? Ou est-ce que, non, c'est pas bien, on va mettre 9 d'un côté et 3 de l'autre. On passe toute l'année à décider qu'est-ce qu'on va faire avec nos 12 vaches. Maintenant, je m'explique. En aucun cas, est-ce que je suis en train de dire que nous, les chrétiens, nous sommes des vaches. Donc, juste pour que ça soit clair. Ni vous, ni moi. Mais, et après des années, et à la fin de l'année, on a quoi ? Eh bien, on a commencé avec combien de vaches ? 12. Et à la fin, on a autant, mais pas une seule de plus. Le vrai défi, dans cette parabole qui décrit une vie spirituelle saine, c'est qu'il y a de la croissance. Vous ne pouvez pas lire le livre des Actes sans constater que l'Église était en marche. Ce n'est pas seulement une partie politique en marche. L'Église est en marche vers une croissance. Et la mute... Vous savez que parfois, soyons honnêtes, parfois on est étonné que quelqu'un se convertisse. Nous ne devrions pas être surpris que quelqu'un se convertit. C'est normal. C'est exactement ce qui est le message de cette quatrième terre dans la parabole du semeur. Je termine avec le quatrième thème très rapidement. C'est plutôt pas évident. La nécessité de semer. Il n'y a rien qui se passe si le semeur ne sort pas pour semer. Il n'y a rien qui se passe. On peut discuter dans nos congrès que c'est difficile en France de créer des églises et évangéliser. Vous savez, moi, j'ai roulé un petit peu à droite et à gauche, je suis allé, j'ai vécu à Nantes pendant 8 ans, et vous savez, les gens me disaient qu'à Nantes, c'était difficile. Et nous avons vu des nouvelles églises commencer et démarrer, mais c'était difficile. J'ai vécu en région parisienne pendant 20 ans. Vous savez ce que me disaient les chrétiens de Paris ? C'était difficile à Paris. J'ai fait des campagnes avec OM dans le nord de la France. Des nordistes, vous savez ce qu'ils me disent ? C'est difficile dans le nord. J'ai commencé en France, à Marseille, avec une équipe universitaire. Et dans le sud, on constate que c'est difficile. Vous savez à quelle conclusion je suis venu ? En France, c'est difficile. Mais vous vous souvenez des thèmes du chapitre 11 et 12 ? Opposition au ministère de Jésus, c'était difficile pour les disciples. Mais nous devons semer dans souvent un contexte difficile en France. C'est comme le paysan à Troyes qui me dit qu'avant qu'il sème la graine de blé dans son champ, il doit passer 7 fois dans son champ. Pourquoi faire ? Pour casser les mottes de terre qui sont sèches. Et souvent, en France, nous devons casser ce que les gens croient avant de leur donner la bonne semence. Mais le Seigneur est à l'œuvre, n'est-ce pas ? Donc, 4 thèmes relativement graves pour un milieu du mois de juillet, ou la fin du mois de juillet, au milieu de l'été, que le Seigneur nous laisse réfléchir, reprendre à la maison, relire le chapitre, méditer dessus et que nous soyons nourris. On va prier. Seigneur, nous nous sentons tout petits devant les réalités de ce chapitre et nous voulons crier vers toi, te demandant de nous nourrir, de nous équiper, de nous remplir avec toi, avec une parole à propos pour des gens autour de nous. Merci de ce que ta parole et par ton esprit nous nourrit pleinement ce matin. Béni sois-tu, toi qui es la vérité incarnée. Nous voulons être tes disciples. Et nous te bénissons pour ces paroles souvent dures et graves. Mais c'est toi qui les as prononcées. Merci de ce que tu es le Dieu vivant et vrai. Et nous voulons être, jour après jour, tes disciples. Au nom de Jésus. Amen.